Bonjour, c'est Maxime, l'hôte du Green Letter Club. Vous le savez, sur le Green Letter Club, on ne fait pas de pub ou de partenariat bizarre. Bref, on est 100% indépendant. Et pour le rester, on a besoin de vos dons. Alors n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce sur Tipeee, vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Et pour se financer, on organise aussi des fresques du climat ou de la biodiversité et des conférences sur les questions climatiques. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous écrire. Un grand merci du fond du cœur et bonne écoute. Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler du futur de l'assurance dans un monde aux proies au désordre climatique. Sécheresse, inondations, ouragans, les catastrophes naturelles sont de plus en plus violentes. D'où cette question, pourra-t-on continuer à s'assurer dans un climat qui change ? Pour y répondre, nous recevons Pascal Demurger, directeur général de la MAIF, une société d'assurance mutualiste qui compte plus de 4 millions de sociétaires en France, et coprésident du mouvement Impact France, un syndicat d'entreprises engagées.
Bonjour Pascal Demurger.
Bonjour Maxime.
Alors première question, on va entrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous observez en tant qu'assureur une hausse significative du nombre de sinistres liés au changement climatique ?
Alors, de ce point de vue-là, d'ailleurs, l'assurance, c'est extrêmement intéressant parce que c'était une espèce de miroir, je dirais même un miroir grossissant en réalité de ce qui est en train de se passer sur le climat. Et d'ailleurs, c'est à la fois un miroir de l'existant, mais ça peut être aussi un laboratoire de solutions. Sur l'existant, en tout cas, alors oui, bien sûr, on constate, on mesure même une hausse systématique de la sinistralité climatique, et ça pas depuis hier, depuis peut-être une quinzaine d'années, avec quasiment un doublement du coût des événements climatiques à peu près tous les 3 ans. Donc c'est une progression assez considérable. Un pic en 2022, alors absolu, là pour le coup tous les observateurs ont été surpris. Alors je crois pas que ce soit le signe d'une accélération du réchauffement en lui-même, mais en revanche, d'une accélération des conséquences du réchauffement. C'est-à-dire que le réchauffement, il est relativement linéaire. En revanche, ça produit des effets qui sont complètement non linéaires et qui ont été particulièrement violents en 2022. Pour vous donner juste un chiffre, en 2022, les sinistres climatiques en France, c'est quasiment 11 milliards d'euros. Là où la moyenne des 5 années précédentes, c'était 3 milliards et demi. Donc on fait x3 par rapport aux années précédentes.
Est-ce que vous avez une idée, vous disiez doublement tous les 3 ans. Vous avez une idée, par exemple, dans les années 80, des ordres de grandeur que ça pouvait être, la sinistralité, enfin le coût des sinistres en France ?
Alors, j'ai pas d'idée chiffrée, mais en revanche, c'était à la fois relativement bas et relativement flat. Il y avait de temps en temps une tempête un peu plus importante, parfois une inondation beaucoup moins qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas du tout le problème de la sécheresse, qui est un problème relativement important, on y reviendra sans doute. Donc c'était j'allais presque dire sans surprise, quoi, et complètement anticipable.
Dans les décennies qui viennent, d'ici 2050 par exemple, quelle ampleur les sinistres risquent-ils d'atteindre ? À quel point vous prévoyez une augmentation de la sinistralité en France ?
Il y a eu une étude de la Fédération française de l'assurance il y a quelques années qui prévoyait un doublement des primes, ce qu'on appelle les multirisques habitation, c'est-à-dire l'assurance habitation en France. Doublement des primes en sachant que, évidemment, le climatique n'est qu'une partie, et même plutôt une petite partie de ces primes-là. Donc on voit l'impact assez considérable. en réalité, à un horizon de moyen terme, mais pas si éloigné que ça, il y a finalement deux sujets, deux conséquences qui sont socialement assez dramatiques en réalité, si on n'y prend pas garde. La première, c'est effectivement le renchérissement du coût de l'assurance. S'il y a une multiplication des événements climatiques, de leur ampleur et donc de leur coût, forcément, en face, les tarifs de l'assurance suivent et augmentent également. Et puis, le deuxième phénomène, c'est le risque d'exclusion, en réalité, d'un certain nombre de zones géographiques, de la possibilité même de s'assurer. Pourquoi ? Parce que les phénomènes climatiques sont quand même relativement, en tout cas pour une part d'entre eux, concentrés sur une partie du territoire national. Et on a une connaissance qui est de plus en plus fine, en réalité, hein, de la localisation de ces phénomènes climatiques. Les inondations, par exemple, elles ont lieu plus ou moins toujours au même endroit, et en tout cas, on identifie parfaitement les zones facilement inondables. La submersion marine, par hypothèse, on sait où elle peut avoir lieu, etc. Et donc, le risque, si on y prend garde, c'est que sur ces zones-là, un certain nombre d'assureurs décident que le coût est beaucoup trop élevé, la probabilité est beaucoup trop forte, et donc décident de se retirer de ces zones et de ne plus assurer des habitations. Et si quelques-uns le font, d'autres vont suivre. Les derniers qui voudraient rester ne pourront pas parce qu'on ne peut pas assumer la totalité des coûts. Hein. On ferait ce qu'on appelle en assurance de l'antisélection. Hein. On finirait par n'assurer que les mauvais risques et les autres les bons risques. Et donc, si on ne trouve pas une organisation de marché qui permette de le faire, on risque de voir effectivement des zones du territoire qui ne seront plus assurées.
Alors ça, c'est un sujet vraiment très important, on y reviendra dessus tout à l'heure. Juste pour comprendre, quelles sont les catastrophes qui, vous, en tant qu'assureur, vous coûtent le plus cher et quels sont les phénomènes aussi que vous voyez augmenter ?
Alors, ce que l'on voit augmenter, en réalité, ça n'est pas une nature de phénomène, c'est une intensité de phénomène. Hein, les phénomènes sont à peu près toujours les mêmes. Des tempêtes, des inondations, de la sécheresse, de la grêle, etc. En revanche, ce qui augmente considérablement, c'est leur intensité. Et l'intensité de tous les phénomènes, pour le coup. Ensuite, il faut distinguer les événements selon un petit peu leurs caractéristiques. Vous avez des événements brutaux, mais de grande ampleur. Typiquement, un cyclone dans les Antilles, ou une tempête particulièrement violente en métropole. Vous avez des phénomènes moins spectaculaires, en tout cas moins brutaux, mais qui produisent, on l'a vécu ces dernières semaines d'ailleurs, hein, des catastrophes assez dramatiques sont les inondations. Hein, et on voit que ça peut être relativement lent hein, dans le Pas-de-Calais là, en ce moment. L'eau baisse très, très lentement. Et puis, vous avez des phénomènes qui sont quasiment invisibles, mais qui, en réalité, pèsent énormément, créent énormément de dégâts. Je pense à la sécheresse et avec ce que l'on appelle le retrait-gonflement des argiles. Pardon, c'est un petit peu technique. Lorsque le sol est argileux, il absorbe l'humidité, l'eau de pluie, il gonfle sous l'effet de cette pluie. Puis, en période de sécheresse, il se rétracte. Et donc, ce gonflement et cette rétractation, fait que le sol bouge et entraîne ce qui est construit sur lui, hein, c'est-à-dire les maisons. Et les maisons bougent aussi et peuvent parfois être complètement détruites avec des... des failles dans les murs qui peuvent rendre la maison inhabitable.
Alors ça dépend en partie des sols et des sécheresses. Il me semble avoir lu dans un rapport sur le changement climatique et l'assureur que ça pourrait concerner dans les décennies qui viennent la moitié du parc de maisons en France. C'est un phénomène qui est massif, qui n'est pas justement marginal.
C'est un phénomène qui est massif. On considère que, on ne considère pas, on sait que à peu près la moitié des sols métropolitains sont argileux hein, et donc susceptibles d'être touchés par ce phénomène de retrait-gonflement des argiles. Et sur la moitié de ces sols argileux, il y a un peu plus de 10 millions de maisons qui y sont construites. Hein, et c'est en effet à peu près la moitié du nombre de maisons individuelles en France.
Les vagues de chaleur, quand on parle de l'assurance, c'est un sujet dont on parle un petit peu moins. J'avais lu pourtant que dans un rapport que les vagues de chaleur posaient un problème grandissant et important pour les assureurs. On n'arrive pas forcément à bien identifier le problème que ça peut vous poser, ces vagues de chaleur.
Il y a deux conséquences aux vagues de chaleur. Ce n'est pas la chaleur en elle-même, mais les conséquences de ces vagues de chaleur. D'abord, ça amplifie ce dont on vient de parler, hein, c'est-à-dire ce retrait des argiles, la sécheresse tout simplement. Et puis, on le constate désormais, et ça c'est un phénomène quand même relativement récent, en tout cas dans l'ampleur qu'il prend, c'est la question des incendies. Hein, avec des incendies, alors là pour le coup, l'ensemble de la planète est concerné, mais la France aussi, hein, on se souvient des incendies à Arcachon par exemple, hein, la forêt de la Thèse de Buch, hein, il y a 18 mois, des incendies gigantesques, et avec en plus une espèce de boucle de rétroaction, hein, un cercle vicieux, les incendies détruisent de la biodiversité, de la capacité à absorber du carbone, et donc accélèrent à leur tour le réchauffement climatique, donc à la fois cause et conséquence, on va dire, de ce réchauffement.
Les inondations, c'est un problème qui a toujours posé beaucoup de sujets aux assureurs. C'est pareil, c'est un phénomène que vous voyez en augmentation, vous le disiez tout à l'heure. À quel point ça touche les assureurs, la question de l'augmentation des inondations?
C'est un phénomène qui est en augmentation, tout simplement parce que la pluviométrie a changé. Elle n'est pas nécessairement sur une année beaucoup plus abondante. En revanche, il pleut de manière beaucoup plus intensive sur des périodes beaucoup plus courtes. Et avec une capacité des sols à absorber cette pluie qui, évidemment, est limitée. Hein, et donc, il y a des phénomènes à la fois de débordement des cours d'eau et de ruissellement et de ravinement du fait de ces pluies surabondantes. Et qui du coup appauvrissent énormément les sols et créent des inondations. Et donc cette intensité et cette localisation des pluies augmente effectivement assez considérablement, hein, les phénomènes d'inondations, soit d'inondations très brutales, très spectaculaires, on pense à la vallée de la Roya il y a 3 ans maintenant, hein, soit au contraire des inondations très progressive et très étendue. On parlait du Nord-Pas-de-Calais il y a un instant, mais dans les deux cas, avec des dégâts qui sont considérables, hein, et qui peuvent rendre tout simplement inhabitable un certain nombre de maisons.
Et ça, on sait très précisément où ça va intervenir, ces inondations. Simplement, le réchauffement climatique va accentuer ces phénomènes. Est-ce qu'on a une idée de la carte de France, par exemple, des inondations, de la carte de France des incendies, de la carte de France des sécheresses?
C'est un petit peu le cœur du sujet de l'inassurabilité. L'inassurabilité, c'est quoi? C'est effectivement le croisement de l'augmentation de ces phénomènes naturels, de ces catastrophes naturelles, hein, ou de manière un peu structurelle, croisé par la meilleure connaissance que l'on a du risque, hein, et à ce que l'on pourrait appeler un déchirement du voile d'ignorance, hein, là où... autrefois, on assurait en ayant finalement une connaissance beaucoup moins précise, beaucoup moins localisée de la réalité du risque, et donc on assurait sur des bases statistiques relativement globales, relativement macro. Aujourd'hui, on est capable, parce qu'on a les outils de modélisation on est capable d'identifier de manière extrêmement précise à l'adresse en réalité, hein, c'est pas seulement à la commune ou... c'est véritablement à l'adresse, on est capable d'identifier la probabilité de survenance des risques. Et donc ce croisement de l'augmentation des risques, de leur localisation par ailleurs, et de ce déchirement du voile d'ignorance, de cette capacité à modéliser de manière très très précise la probabilité de survenance de ce risque-là, fait que l'on sait dire qu'à tel endroit, il est très probable ou même totalement certain que le risque va arriver, va se produire, hein, dans l'année ou dans les 5 ans qui viennent, etc. Et c'est ça qui risque, si on ne fait rien, de rendre ces zones-là inassurables, c'est-à-dire que les assureurs ayant cette connaissance du risque, risquent, si on n'organise pas le marché, tout simplement de se retirer, hein, de dire « non, le risque est beaucoup trop fort, beaucoup trop probable, sa survenance est beaucoup trop probable pour que j'accepte d'assurer cette maison à cet endroit-là parce qu'elle est trop exposée. »
On a vu ça beaucoup en Floride, notamment lié aux inondations, en Australie également. Est-ce que vous avez des exemples de régions, d'assurances, d'assureurs qui se sont retirés, qui ne couvrent plus certains risques? Est-ce que, par exemple, vous en parliez tout à l'heure, aux Antilles, il y a des cyclones qui peuvent avoir des coûts vraiment très importants. Est-ce qu'il y a déjà des assureurs qui se retirent, qui n'assurent plus certains risques?
Alors, aux Antilles, c'est effectivement une sorte de laboratoire un peu avancé de ce qui peut se passer en métropole, de ce point de vue-là. Et en effet, à la suite de cyclones un peu importants, il y a des assureurs qui se sont retirés. Il y a aujourd'hui un nombre finalement relativement limité d'assureurs aux Antilles. En métropole, le phénomène...
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'assureurs qui sont partis?
Il y a des assureurs qui sont partis, oui, tout à fait, oui, complètement. En métropole, le phénomène est évidemment beaucoup moins généralisé, mais on voit bien qu'il commence à y avoir soit des hausses de tarifs un peu significatives de la part de certains acteurs sur des zones très, très déterminées, voire même, je vais utiliser un euphémisme, une grande difficulté à obtenir une assurance chez certains assureurs. Pour l'instant, en France, on n'a pas du tout de phénomène du type de ce qui se passe aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, tout le monde trouve une assurance habitation et il y a encore une offre qui est extrêmement large. En revanche, j'allais dire, la suite est un peu écrite si on ne fait rien et si on n'organise pas le marché. Parce qu'évidemment, l'intensification et la localisation très forte de ces risques-là, encore une fois, va entraîner des comportements de cette nature.
En France, si on se lance dans un scénario de politique fiction, quelles sont les zones qui pourraient être sous tension assez rapidement? Si, par exemple, le marché n'était pas organisé, comme vous dites, quelles sont les zones qui risqueraient de ne plus être assurées sur l'habitation?
Alors, ça dépend beaucoup de la nature du risque. Les zones ne sont pas les mêmes si on parle de submersion marine, par exemple, ou si on parle d'inondation, ou si l'on parle de sécheresse. Et donc, ça dessine une carte de France qui peut avoir des zones très localisées, très exposées à une nature de risque, un peu partout sur le territoire. Alors, avec une concentration de ces points difficiles, de ces points noirs, plus forte dans certaines grandes régions, mais il y en a en réalité un petit peu partout.
Ça voudrait dire typiquement qu'on pourrait souscrire un contrat d'assurance habitation, mais que si on habite dans le sud-est, le risque incendie ne serait pas garanti. Si on habite sur la côte vendéenne, le risque de submersion marine ne serait pas garanti.
Ça peut être effectivement une des hypothèses, c'est-à-dire une exclusion de certains risques des garanties couvertes, ou des dommages couverts plus exactement, ou ça peut être carrément l'impossibilité même de trouver un contrat d'assurance. Dans les deux cas, la conséquence est la même. Ça veut dire que les gens se retrouveraient, et encore une fois, on parle au conditionnel et pas au présent, en tout cas en France, mais aux États-Unis, c'est déjà le cas, où des gens ne sont plus couverts précisément pour le risque le plus probable. Or, l'objet de l'assurance, c'est bien de se couvrir pour ces risques-là.
Sur l'assureur en lui-même, est-ce que le modèle de l'assurance est remis en question? Est-ce que, on imagine que l'assureur était bénéficiaire 9 années sur 10 précédemment et qu'il il devait mettre la main à la pâte une année sur 10? C'est comme ça qu'on imagine que le secteur fonctionnait. Aujourd'hui, le modèle de l'assurance, de l'assureur, il est remis en question?
Ça le remet en question pour deux raisons. D'abord, effectivement, pour des raisons économiques, tout simplement d'équilibre du système assurantiel. Enfin, vous l'avez bien décrit, l'assurance, c'est effectivement statistiquement 9 fois sur 10, c'est bénéficiaire, et puis une fois sur 10, On perd pas mal d'argent qui, en gros, mange l'essentiel des marges accumulées pendant la période précédente. Et ça, c'est vrai, c'est une mutualisation dans le temps. Et puis, il y a évidemment une mutualisation dans l'espace. Hein. C'est-à-dire que l'assurance, on perd beaucoup d'argent sur un nombre limité de clients et on gagne un peu d'argent sur un nombre très important d'assurés. C'est ce qu'on appelle la mutualisation, hein, la répartition du risque entre les individus. Et donc, c'est effectivement le fondement de l'assurance. L'autre fondement de l'assurance, il repose sur ce que j'appelais tout à l'heure le voile d'ignorance, au fond. Hein, c'est-à-dire, je ne sais pas, prenons l'assurance automobile, je ne sais pas si vous, votre voisin ou une autre personne va demain avoir un accident de voiture ou va se faire voler sa voiture. C'est évidemment, statistiquement, il est impossible de le déterminer. En revanche, je sais simplement, de manière très macro, en fonction de deux, trois caractéristiques relativement limitées, d'ailleurs, hein, en nombre relativement limité, l'endroit où vous habitez, éventuellement l'âge que vous avez, l'ancienneté de votre permis de conduire ou vos antécédents de conduite, bah, je sais calculer sur une population donnée une probabilité plus ou moins élevée de survenance d'un sinistre et donc on va tarifer votre police d'assurance en fonction de ce risque-là. Mais ce sont des lois probabilistes, hein, ça repose véritablement sur des statistiques. Le problème avec l'affinement de la connaissance et notamment des phénomènes météorologiques et de l'évolution du climat et de ses conséquences, le problème c'est que ça devient de moins en moins de la probabilité, mais de plus en plus de la certitude. Et par ailleurs, le risque devient de moins en moins une hypothèse de survenance qu'une certitude de survenance. On sait qu'à cet endroit, nécessairement, va se passer tel, sinistre climatique. Alors, on ne sait pas quand, évidemment, mais en tout cas, à un horizon relativement proche, on sait qu'il va se passer. Et dans ce cas-là, l'assurance sait couvrir quelque chose qui n'est pas certain, un aléa. L'assurance est faite pour couvrir des aléas. L'assurance ne peut pas couvrir des certitudes. Hein. Donc il y a effectivement un risque de remise en cause du modèle assurantiel tel qu'il fonctionne aujourd'hui, en tout cas.
Est-ce qu'on a déjà assisté à des faillites d'assurance ?
Alors on a assisté, à des faillites d'assurance. Alors, à des vraies faillites d'assurance en dehors de France et à des quasi-faillites d'assurance dans le passé, un passé déjà un petit peu lointain en France, mais dans ce cas-là, il y a toujours l'organisation d'une reprise de l'assureur en question pour que les personnes qui étaient assurées ne se retrouvent pas sans couverture.
Mais l'image d'Épinal de l'assureur, c'est justement des institutions très puissantes, financièrement très bien dotées. Est-ce qu'aujourd'hui, elles ont été, est-ce que dans les 10 dernières années, c'est des institutions qui ont été fragilisées financièrement, les assureurs ?
Alors aujourd'hui, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce qu'on est en train de décrire, hein, les phénomènes que l'on est en train de décrire, même si ils montent en puissance depuis un certain nombre d'années, aujourd'hui sont loin d'être arrivés à leur apogée. Hein. Et ce que l'on décrit, c'est quand même assez largement la situation à partir d'aujourd'hui et pour un avenir plus ou moins lointain. La deuxième raison, c'est qu'il y a, jusqu'à présent en tout cas, un système de réassurance, c'est-à-dire d'assurance des assureurs en quelque sorte, hein, qui a été relativement efficace et qui a protégé les assureurs directs en cas de très gros événements survenant dans un pays quelconque. Et puis la troisième raison, c'est qu'il y a eu progressivement l'émergence de règles qu'on appelle des règles prudentielles, pour ce qui nous concerne principalement définies par des directives européennes, qui impose aux assureurs d'avoir un niveau de fonds propres, on va dire, hein, et de provisions extrêmement élevé pour précisément garantir leur solidité financière, même en cas de coup dur. Hein, il y a une régulation du monde de l'assurance, exactement comme sur le monde bancaire, qui est faite pour prévenir tout risque de faillite, parce que la faillite d'un assureur comme d'une banque a des conséquences sociales évidemment très lourdes. Donc pour l'instant, on est à l'abri, hein, de ce risque de défaillance d'un assureur. En revanche, bah, évidemment, hein, la volatilité et surtout l'augmentation future des risques peut remettre en cause les grands équilibres économiques de ce système-là. D'ailleurs, aujourd'hui, je parlais d'inassurabilité ou de risque d'inassurabilité d'une partie du territoire. Ça peut provenir aussi, la menace peut provenir aussi de la réassurance, c'est-à-dire du refus des réassureurs qui exercent au plan mondial, hein, sont des réassureurs mondiaux, du refus de réassureurs de couvrir les assureurs directs pour certains risques climatiques sur certaines zones données.
Ça, c'est déjà arrivé ?
Bon, c'est en train d'arriver en réalité. Hein, depuis, je vous disais, 2022 avait été une année particulièrement catastrophique sur le plan des événements climatiques. En 2023, les assureurs se sont partiellement retirés, à la fois avec des hausses de tarifs considérables, vraiment considérables, et des refus de garantie ou des limitations de leurs garanties assez drastiques. Oui.
Donc ça veut dire concrètement, est-ce que vous pouvez prendre un exemple ? C'est-à-dire que, par exemple, le réassureur ne vous réassurerait pas sur les cyclones dans les Antilles ou des choses comme ça ?
C'est exactement ce genre de choses. Je disais qu'en 2022, pour le marché français, le coût des événements climatiques, ça avait été 11 milliards, là où c'était à peu près 3,5 milliards une année habituelle. En 2023, on est revenu à un montant beaucoup plus classique, hein, on devait être en dessous de 5 milliards d'euros. Ça, c'est le montant brut, c'est-à-dire le montant direct, hein, le coût réel des événements climatiques. Et puis, les réassureurs couvrent les assureurs directs et à la fin, il y a un coût net, c'est-à-dire déduit, hein, de la protection par les réassureurs. Le coût net en 2023 pour les assureurs directs est supérieur à celui de 2022. Ça veut dire que là où les réassureurs avaient pris en charge une grande partie des sinistres en 2022, ils n'ont quasiment rien pris en charge en 2023. C'est la conséquence de la limitation des garanties qu'ils accordent aux assureurs directs.
Est-ce que je me demandais, il y a un peu un phénomène similaire à celui du prix du pétrole, c'est-à-dire est-ce que vous voyez une tendance à ce que les gens refusent de s'assurer parce que ça devient trop cher ? Est-ce que c'est pas un risque pour les assureurs ? C'est-à-dire qu'ils peuvent jouer sur la prime d'assurance jusqu'à un certain niveau. On pense bien qu'il y a un plafond à partir duquel les gens vont arrêter de s'assurer.
Alors, oui, alors, plusieurs choses. D'abord, ce phénomène, on l'observe, mais on ne l'observe pas pour les particuliers. Hein, on l'observe pour les entreprises, notamment, et notamment les entreprises de grande taille, qui, d'ailleurs, sont autorisées par une loi relativement récente à constituer en avance des provisions pour se couvrir elles-mêmes d'événements de sinistres futurs. Hein, et donc, ont tendance à conserver une partie du risque et à ne s'assurer qu'au-dessus d'un certain montant si, effectivement, la survenance d'un événement quel qu'il soit entraînait un sinistre d'un montant supérieur à une franchise, au fond, une priorité, comme on dit dans le monde de l'assurance. Donc ce phénomène existe pour le monde des entreprises. Il n'existe pas chez les particuliers, d'abord parce qu'ils n'ont pas cette possibilité-là, tout simplement, hein, et parce qu'aujourd'hui encore, finalement, le montant des assurances habitation est finalement pas si élevé que ça en France. Hein. D'ailleurs, vous assurez votre maison pour quasiment deux fois moins cher que votre voiture. Hein, ce qui est une forme de paradoxe, hein, quand on regarde évidemment la valeur qui est assurée. Donc l'assurance habitation n'est pas si chère que ça. Et d'ailleurs, structurellement sur le marché, et ça depuis très longtemps, les assureurs structurellement perdent de l'argent sur l'assurance habitation. Hein, et on tarifie un peu en dessous du coût de cette assurance.
Alors là-dessus, il y a un sujet qui est intéressant. Bon, on sort un peu de votre zone de confort, entre guillemets, c'est parce que vous assurez très peu ou pas les agriculteurs, mais typiquement les agriculteurs. Moi, j'ai lu dans un rapport, alors je ne sais plus si c'était Suisse Re ou de la Fondapol, qui disait que seulement l'ordre du tiers des agriculteurs était assuré contre les risques climatiques. Ça paraît très faible et ça paraît être une faiblesse majeure pour la nation tout entière.
Je suis complètement d'accord avec vous, hein, et ça fait évidemment peser sur eux un risque considérable, hein, parce qu'ils peuvent tout perdre, là, pour le coup, hein, et c'est leur outil de production, enfin leur production même d'ailleurs, hein, qui peut être perdue. Il y a eu un accord récent et une évolution législative récente sur l'assurance agricole, qui permet précisément un système à trois étages, c'est-à-dire... d'abord une conservation, comme l'on dit, du risque par les agriculteurs eux-mêmes lorsqu'ils ne dépassent pas un certain montant, puis une frange assurantielle, hein, entre un certain montant et un niveau catastrophique inaccessible pour les assureurs, et au-delà, si jamais il y avait des événements qui génèrent un coût qui serait au-delà de cette limite, un système de solidarité nationale où l'État intervient.
Je vais traduire pour le vulgaire avec des chiffres qui sont pas du tout réalistes, mais pour qu'on comprenne bien ce que vous dites. C'est-à-dire qu'en dessous de 5000 euros, ça pourrait être intégré comme une perte pour l'agriculteur. Entre 5 et 30 000, c'est un assureur qui prendrait le relais. Donc si on n'est pas assuré, personne qui prend le relais. Et au-dessus de 30 000, ça pourrait être l'État. C'est ça le système qui est en train de se dessiner.
C'est exactement le système. Et comme l'assurance est effectivement, là, dans ce système, on le voit, est plafonnée finalement, hein, dans le niveau de risque. Ça permet d'en diminuer le coût, de la rendre plus accessible et donc de permettre au plus grand nombre de s'assurer pour lutter contre ce phénomène d'une majorité d'agriculteurs qui n'est pas assuré.
Alors, dans votre bouche, vous avez beaucoup utilisé l'expression « organiser le marché ». On voit bien qu'il y a une forte tension sur le secteur de l'assurance, que le changement climatique va bouleverser les pratiques. J'ai cru comprendre, en lisant les rapports, en préparant l'entretien, qu'il y avait deux visions, deux philosophies un peu distinctes chez les assureurs. Une vision plus portée des mutualistes, où on devait conserver cette vision de la mutualisation des risques. Et puis, une vision plus de segmentation, où on assure certaines personnes, puis d'autres pas. Est-ce que ce sentiment, vous le partagez? Quelle est la philosophie aujourd'hui des acteurs de l'assurance par rapport à au changement climatique et aux problématiques qui pèsent sur le secteur?
Alors, vous avez raison, hein, il y a des à la fois sans doute des perceptions de la réalité et des risques à venir des réactions un peu principielles, hein, qui sont différentes selon les acteurs. Il y a des assureurs qui considèrent que ce que je décrivais tout à l'heure, hein, cette question de l'inassurabilité potentielle est sans doute très proche d'un certain nombre de zones géographiques, en réalité n'existe pas. D'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde trouve un assureur et les assureurs prennent effectivement en risque, ce qui est le cas. Hein. En France, en tout cas, la totalité des sinistres. Et donc, il n'y a pas de difficultés particulières. Et puis, il y a un certain nombre d'autres assureurs, et notamment, vous l'avez dit, les assureurs mutualistes, hein, qui ont une vision qui est un peu différente, qui constatent que déjà, il y a des hausses de tarifs extrêmement fortes pratiquées par certains acteurs à certains endroits qui rendent quasiment impossible pour un particulier de souscrire des assurances. Il y a même carrément des refus d'assurance de la part de certains assureurs. Et ce phénomène ne va faire que s'amplifier, risquant d'exclure une partie de la population de l'assurance. Ce phénomène, d'ailleurs, on le constate en avance de phase, si je puis dire, aux États-Unis, hein, en Floride, mais aussi en Californie ou dans d'autres États. Il devient extrêmement difficile d'assurer sa maison parce que trop exposé à ce genre de risque. Et nous, ce que nous disons, et en particulier la MAIF étant un peu en pointe, hein, sur ce sujet, ce que nous disons, c'est que c'est socialement complètement inenvisageable. On ne peut pas imaginer demain que les personnes qui sont en plus les plus exposées ne puissent pas s'assurer et assument seules la perte financière de la destruction pure et simple de leur maison. C'est inimaginable socialement et d'ailleurs politiquement aussi. Et donc, ce que l'on dit, c'est revenons à une organisation de marché qui repose effectivement sur une mutualisation du risque, c'est-à-dire un partage du risque sur une population beaucoup plus large, sur la population dans son ensemble, et faisons en sorte que tous les assureurs qui travaillent en France prennent leur part de ces zones particulièrement exposées, et leur part, ça correspond à leur part de marché en général. Et donc, organisons une solidarité financière, en quelque sorte, entre l'ensemble des assureurs, ce qui permettra de répartir les coûts sur la totalité de la population française, et en répartissant ainsi, ça devient effectivement accessible financièrement.
Ces antagonismes, ils se matérialisent quelque part dans les discussions auprès de l'État. Est-ce que il y a des législations qui sont en cours? Est-ce qu'il y a des discussions qui sont en cours avec l'État? Et comment vous voyez aussi le rôle de l'État sur ces questions-là?
Alors oui, il y a pas mal de discussions en cours. Il y a des discussions en cours au sein de la profession, au sein de la Fédération française de l'assurance. Et puis, il y a des discussions avec les pouvoirs publics. Et en particulier, il y a plusieurs missions, dont une principale, qui ont été diligentées par les pouvoirs publics, par le gouvernement, sur ce sujet-là, et qui devraient rendre leurs conclusions dans les jours qui viennent, en réalité, avant la fin du mois de février, et faire des propositions d'évolution de la réglementation.
Quel rôle doit jouer l'État dans l'accompagnement des assureurs ?
Je pense que l'État a un double rôle à jouer. Il a d'abord son rôle normal de législateur, d'organisateur, en quelque sorte, de ce marché. Et donc, je pense que l'État doit fixer un certain nombre de règles, notamment celles imposant en quelque sorte aux assureurs de couvrir la totalité des risques. Et puis l'État a un second rôle qui est d'organiser la solidarité nationale lorsque des événements d'une ampleur telle ne peuvent pas être pris en charge par la seule industrie de l'assurance. Et donc là, il y a un volet de solidarité et de répartition qui doit être joué par l'État, ce qui est le cas à travers, je parlais tout à l'heure de la Caisse centrale de réassurance, la CCR, qui est un réassureur public qui joue ce rôle-là dans les cas de catastrophes naturelles.
Alors, il y a un phénomène qu'on constate depuis les années 2000, c'est une financiarisation aussi du monde de l'assurance. On a vu émerger même une titrisation, c'est-à-dire des bons, des obligations qui sont dédiées à l'assurance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce phénomène ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que l'assurance en elle-même est en train d'être vraiment financiarisée, d'être mise, je vulgarise pas tout à fait ça, mais d'être mise en bourse, c'est-à-dire les risques sont vraiment titrisé.
Alors effectivement, il y a assez peu en France en réalité, mais notamment aux États-Unis, il y a un phénomène de titrisation, c'est-à-dire d'émission de ce qu'on appelle les cat bonds, des obligations catastrophes en quelque sorte, qui sont un mécanisme dans lequel des obligations sont émises avec des clauses prévoyant que, en cas de survenance de catastrophes naturelles, clairement évidemment identifiées, précisées dans le règlement de ces obligations, dans ce cas-là, ces obligations ne sont pas remboursées, ou ne sont que partiellement remboursées. Donc, si la catastrophe dans les 5 ans à venir, par exemple, ne se produit pas, ce sont des obligations normales, avec généralement, bien sûr, une rémunération un peu élevée, puisqu'il y a en face un risque qui est plus important. En revanche, si la catastrophe qui est prévue se produit, elles ne sont pas remboursées. Finalement, ça revient à transférer le risque sur tous les porteurs de ces obligations. Et cette financiarisation de l'assurance revient au fond de la part des assureurs qui pratiquent ce genre de choses à ne plus supporter eux-mêmes le risque de catastrophe sur leur propre bilan, mais à le transférer sur les porteurs d'obligations.
Qu'est-ce que ça vous inspire, justement, cette financiarisation, cette titrisation ? On a l'impression que dès lors que qu'un sujet est touché par le marché, vraiment par les marchés financiers, c'est qu'il se passe quelque chose de très préoccupant. C'est le sentiment que j'en ai. Est-ce que c'est un sentiment vraiment trivial ou est-ce que vous le partagez ?
Ben, moi, j'ai l'impression que ça traduit deux choses de nature un petit peu différente. La première chose, c'est que d'abord, il y a une financiarisation d'énormément de métiers, notamment de l'assurance, hein, depuis quelques décennies, et une capacité de l'industrie financière à inventer des mécanismes, notamment de transfert des risques, à partir du moment où il y a une forme d'aléa, une forme de risque, la possibilité d'une rentabilité en face, il y a une ingénierie financière qui est capable de monter en effet des produits relativement novateurs. Et on a bien vu, hein, l'innovation financière depuis quelques décennies est quand même extrêmement forte. Et puis après, il y a cette question que vous soulevez, hein, qui est de dire est-ce que ça n'est pas le signe, le symbole, le symptôme au fond d'une évolution du risque qui fait que l'industrie ne veut pas conserver ce risque-là et l'éclate sur une population beaucoup plus large. In fine, que ce soit à travers la financiarisation, alors évidemment de manière particulièrement brutale s'agissant de la financiarisation, mais aussi à travers les mécanismes d'assurance, de réassurance, voire de prise en charge par la puissance publique, in fine, le coût est mutualisé sur une population relativement large, hein, que ce soit la population générale, si on parle de la solidarité des États, quasiment la population générale, si on parle du système assurantiel, une population un peu plus limitée, si on parle de ce genre d'innovation financière comme les CATS bonds, mais en tout cas, à un moment donné, c'est bien une répartition sur les individus, au fond, hein, une répartition du coût sur les individus au final.
Alors, il y a un sujet qui est intéressant, c'est on a un peu l'impression que le monde de l'assurance est schizophrénique, c'est-à-dire d'un côté, on voit les indemnisations qui explosent, comme vous l'avez dit, en 2022, 11 milliards, enfin voilà, on sent que vraiment il y a une pression des événements climatiques sur le modèle économique de l'assurance, et de l'autre, on voit toujours les grands projets industriels, les grands projets, les carbon bombs, les installations fossiles, les installations thermiques qui sont toujours rassurées. Est-ce qu'il n'y a pas là une schizophrénie dans la gestion des actifs de la part des assureurs ?
Alors, vous avez raison, qui sont toujours assurés ou qui sont toujours financés, parce que n'oublions pas que l'assurance, par hypothèse, hein, y a des flux financiers relativement importants, les assureurs sont à la fois contraints, parce que c'est le cœur de leur métier, mais aussi contraints par la réglementation à constituer des provisions pour régler des sinistres futurs extrêmement importantes. Les assureurs, par ailleurs, font souvent aussi de l'assurance vie, c'est-à-dire qu'ils collectent de l'épargne. Et donc, les assureurs gèrent des fonds propres ou des actifs qui ne leur appartiennent pas, mais qu'ils ont sous gestion, qui sont extrêmement importants. Et donc, les assureurs sont des financeurs importants de l'économie, hein, d'une manière générale. Et à travers, sur le volet assurantiel, ce qu'on appelle la politique de souscription, qu'est-ce que j'accepte d'assurer ou qu'est-ce que je refuse d'assurer ? Ou dans la politique de gestion des actifs financiers, la politique de placement, vers quoi je place ces actifs ou dans quel secteur je refuse de les placer, évidemment, les assureurs peuvent avoir un rôle important à jouer sur la transition, hein, tout simplement, la transition écologique, la transition énergétique. Pour ce qui nous concerne, par exemple, hein, c'est juste à titre d'illustration, on a un peu plus de 20 milliards d'euros d'actifs sous gestion. On a défini depuis longtemps déjà, hein, des règles extrêmement strictes de ce qu'on appelle des règles d'allocation d'actifs, hein, c'est-à-dire de définition de secteurs dans lesquels on refuse d'investir et de secteurs, au contraire, dans lesquels on va investir de manière significative. Nous avons retiré tous nos investissements des énergies fossiles. Hein, on n'investit absolument plus dans les énergies fossiles. À l'inverse, on investit de manière assez massive dans les énergies renouvelables. On investit aussi beaucoup dans la biodiversité, hein, en faveur de la biodiversité. Donc on a évidemment un rôle relativement important pour accélérer, ou pour d'autres ralentir au contraire, la transition écologique et la transition énergétique.
Alors vous présentez comme l'assureur militant, c'est pas le cas de nombreuses assurances. Comment vous expliquez que de nombreuses assurances vont financer et assurer des projets fossiles, des bombes climatiques ? Est-ce que c'est parce que c'est des projets qui sont très rentables ?
Alors la contradiction hein, que vous mettez en lumière, c'est je suis assureur. D'un côté, j'assure ou je finance des projets qui vont accélérer le réchauffement climatique et donc accélérer les catastrophes naturelles. Et d'un autre côté, puisque je suis assureur, je vais devoir en payer les conséquences. Hein, et ce qui n'a pas une espèce de schizophrénie, d'ailleurs vous avez utilisé le terme. Bah, clairement, au cœur de cette schizophrénie, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve deux choses. D'abord le fait que d'un côté j'ai un bénéfice individuel, de l'autre côté un coût collectif. Hein, et entre ce jeu, dans ce jeu entre individuel et collectif, bah, on voit bien la tentation du choix qui va être fait. Et puis, il y a une tension entre le court et le long terme. À court terme, ce sont en effet des projets qui sont généralement extrêmement rentables. Hein, et donc, en les finançant, bah, je vais gagner beaucoup d'argent. Et puis, il va y avoir un coût, mais qui est un coût pour demain ou pour après-demain, qui est moins certain, qui va être pris en charge collectivement et qui est à plus long terme. Et donc, j'ai une préférence pour le court terme. Alors, le sujet de la transition écologique, d'une manière générale, le sujet de l'engagement des entreprises et de leur contribution dans le ralentissement du réchauffement, dans la défense de la biodiversité, dans tous ces sujets de transition écologique, ce sont bien le problème majeur. C'est bien le problème de la préférence du court terme sur le long terme. Je ne crois pas aujourd'hui qu'il y ait un dirigeant, ou il y en a sans doute quelques-uns, mais je pense que la grande majorité des dirigeants, aujourd'hui, ont une claire conscience des sujets hein, écologiques en général, ont une claire conscience du rôle de l'entreprise dans le ralentissement du réchauffement, mais simplement sont très généralement soumis à des contraintes, à des exigences de rentabilité de court terme qui les inhibent complètement, voire les empêchent d'investir dans cette transition. Hein, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, je sors un tout petit peu de l'assurance, mais c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de prendre la coprésidence d'un mouvement patronal, au fond, hein, d'un mouvement d'entreprise qui s'appelle Impact France, qui réunit des entreprises qui sont consciente de ces difficultés et qui ont envie justement de contribuer à cette transition écologique et de contribuer d'ailleurs aussi à la transition sociale, si on peut la qualifier comme ça. Et à travers ce mouvement d'entreprise engagé, on essaye de peser sur les pouvoirs publics pour créer un cadre réglementaire et fiscal qui soit beaucoup plus incitatif, qui aident les entreprises qui ont envie de s'engager à prendre les mesures nécessaires pour accélérer cette transition.
Si je résume ce que vous dites, et en côtoyant des dirigeants régulièrement, c'est que vous dites au fond, les hommes, ils savent très bien ce qui est en train de se passer, sauf que s'ils investissent dans les choses qui sont moins rentables, leurs actionnaires leur diront d'aller voir ailleurs, et qu'en fait, ils sont un peu prisonniers des logiques de rentabilité.
C'est exactement ça. C'est exactement ça, hein, c'est-à-dire qu'on est dans une... On parlait tout à l'heure de financiarisation de l'économie. On est quand même aujourd'hui dans un système dans lequel les actionnaires pèsent énormément sur le management des entreprises hein, et en particulier les fonds d'investissement pèsent considérablement sur les choix du management et pèse toujours dans le même sens, hein, c'est-à-dire celui d'une rentabilité accrue et d'une rentabilité de court terme avec des exigences de retour sur investissement qui sont très élevées et qui ne sont pas compatibles avec toute idée d'investissement pour l'avenir et en particulier en faveur de la transition.
Il y a un sujet qui est, je pense que c'est le dernier sujet qu'on va aborder, mais qui est très intéressant, c'est que vous le disiez, le voile d'ignorance a été déchiré sur l'impact, la localisation des impacts du changement climatique sur nos vies et sur nos régions. La question du coup, c'est celle de la prévention. Est-ce que le rôle de l'assureur ne va-t-il pas changer? C'est-à-dire qu'on suppose pour éviter que vous payiez des sommes astronomiques, c'est vraiment d'inciter les gens à changer de comportement. Voilà. Comment vous appréhendez cette question de la prévention des populations au risque climatique?
C'est un sujet qui est extrêmement important. Hein. On ne peut pas se contenter simplement d'essayer de réparer les dégâts que le réchauffement climatique va causer. Mais on doit avoir évidemment en amont un rôle de prévention majeur. Je ferai juste une analogie d'ailleurs. C'est le sujet qui est généralement plutôt assez bien connu de la prévention routière. Si on remonte, il y a une cinquantaine d'années, hein, milieu des années ou début des années 70, on avait en France 17-18 000 morts sur les routes chaque année. L'État a pris un certain nombre de réglementations et notamment obligé les assureurs à consacrer une partie des primes d'assurance automobile au bénéfice d'actions de prévention routière. Moralité, 50 ans après, il y a à peu près 2000 morts par an sur les routes. C'est encore beaucoup, mais c'est quand même 8 fois moins qu'à l'époque. Et donc on voit bien qu'il y a eu effectivement une vraie efficacité de ces politiques de prévention. Aujourd'hui, les gros sujets de prévention, ils doivent être évidemment centrés sur le climat, sur le réchauffement climatique, et concentrés sur deux sujets au fond. D'abord, évidemment, sur la question de l'atténuation du réchauffement climatique. Il faut impérativement que les entreprises en particulier, mais aussi l'ensemble des acteurs économiques, consacrent des efforts beaucoup plus importants sur l'atténuation de ce réchauffement. D'où la nécessité aussi qu'il y ait un cadre réglementaire et fiscal qui favorise les investissements pour cette atténuation. On connaît les chiffres, hein, Pisani-Ferry, 65 milliards d'euros supplémentaires d'investissement chaque année pour la prévention. Pour l'atténuation. Et puis la prévention, c'est aussi la prévention des conséquences des catastrophes naturelles lorsqu'elles surviennent. Comment on fait pour, notamment avec des solutions fondées sur la nature et sur le rétablissement de la biodiversité ou lorsque on va redessiner les méandres d'un cours d'eau. On va évidemment diminuer en cas d'inondation, en cas de forte pluie, les phénomènes d'inondation. Lorsque on réhabilite des zones humides, ça va être en quelque sorte des vases d'expansion. Là aussi, en cas d'inondation, etc., etc.
Mais vous n'avez pas d'incidence sur ces choix-là qui sont des choix de politique publique, des choix de communes.
Alors, on a un rôle dans la mesure précisément où on finance une partie de ces projets. On a pris la décision, par exemple, de consacrer 10% de nos résultats annuels, 10% de notre résultat, à des actions en faveur de la biodiversité et à des actions en faveur de la prévention, en aidant ceux de nos assurés qui sont à la fois les plus exposés et les plus fragiles économiquement à prendre des mesures de prévention contre les risques naturels.
Et par exemple, si elle est survenue d'une inondation, c'est des choses qu'on arrive à, dans certains cas, prévoir. Est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont en train d'être mis en place pour alerter les populations? Est-ce que c'est votre rôle? Est-ce qu'il y a des outils techniques que vous développez? Concrètement, à quoi ça peut ressembler la prévention dans les décennies qui viennent?
Alors, c'est complètement notre rôle et on le fait. Hein, je vous disais tout à l'heure, on a une. Il y a deux choses d'ailleurs. Il y a à la fois de manière un peu permanente, on a, je vous le disais, une connaissance assez précise du risque de survenance de telle ou telle nature d'événements naturels sur une zone ou même à une adresse donnée. Bah, cette information dont on dispose, hein, grâce à la modélisation que l'on a mise en place, on la met à disposition du grand public et a fortiori évidemment de nos assurés.
Oui, vous avez un site, pardon de vous faire de la publicité, mais vous avez un site justement où on rentre son adresse et on voit les risques qui sont dédiés.
Exactement, ça s'appelle Aux Alentours. Et lorsque vous voulez acheter une maison, par exemple, vous pouvez venir sur notre site et regarder à cette adresse la nature des risques et leur intensité. Risques naturels ou autres d'ailleurs, hein, si il y a une usine classée Céveso dans le coin, voilà. Et donc, on qualifie et on quantifie ces risques-là, ce qui peut évidemment être intéressant avant de procéder, par exemple, à un achat. Et puis ensuite, il y a la question plus immédiate, en cas de survenance d'un risque ou en cas de prévision dans les jours qui viennent, là, d'un risque qui va arriver, on prévient nos sociétaires, c'est-à-dire nos assurés, de la zone en question. On les prévient, y compris par SMS, en leur disant que voilà, il y a un risque de tempête, d'inondation, et donc prenez telle et telle précaution avant que l'événement n'arrive.
Dernière question, est-ce qu'il y a un sujet sur l'assurance, le secteur de l'assurance, et en lien avec le changement climatique, qui vous paraît important et qu'on n'aurait pas abordé ?
Alors, j'ai l'impression qu'on a abordé beaucoup de choses. Hein. Pour moi, je le disais d'ailleurs en début d'entretien, hein, le secteur de l'assurance est le miroir, au fond, de tout ce qui est en train de se passer en matière de changement climatique. Il en est le miroir à la fois sur la question de l'atténuation. Nous avons le secteur de l'assurance a des moyens financiers relativement importants et donc doit contribuer très fortement à cette atténuation. Il en est le miroir parce qu'il en est, au fond, le reflet quantifié, hein, le reflet quantifié des conséquences aujourd'hui de ce réchauffement climatique, hein, parce que ça se traduit par des événements naturels de plus grande ampleur. Et puis, il en est le miroir dans la manière dont le réchauffement climatique nous oblige à repenser j'allais dire notre organisation sociale et notre organisation économique. Et passer sans doute d'un système dans lequel les règles du marché et donc des modes de fonctionnement très individuels, au fond, hein, étaient le mode de régulation principal, voire exclusif, hein, notamment au plan économique, à la nécessité de trouver des règles coopératives finalement on trouve des modes de fonctionnement beaucoup plus collectifs qui vont permettre de sortir de ce système hyper concurrentiel dans lequel à la fois on ne pourra pas trouver des solutions pour répondre, les réponses aux conséquences du changement et dans lequel peut-être surtout on est incapable de trouver les moyens d'investir dans la transition parce que les exigences de rentabilité de court terme sont là.
Pascal Demurger, un grand merci d'être venu au micro du Green Letter Club et à bientôt.
À bientôt, avec plaisir.